Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire Savitri, livre 7, chant 3. Puis, l'entrée dans les pays intérieurs. Puis continuant sa route par les étendues silencieuses du moi, elle est arrivée dans un espace clair et ordonné. La vie l'a restée parquée dans une tranquillité fortifiée. Une chaîne était posée sur son puissant cœur d'insurgé. Réduite à la modestie d'un pas mesuré, elle n'avait plus sa fièvre ni sa foulée véhémente. Elle avait perdu l'insouciante majesté de ses rêveries et la fertile grandeur de sa force royale. Réfrénées étaient ses pompes grandioses, ses gaspillages splendides, assagies, ses orgies et ses jeux de bacchantes, rabattues ses extravagances dans les bazars du désir, réprimées ses volontés de despote, sa danse des fantaisies. Un flegme froid enchaînait le débordement des sens. Les bonds de son esprit étaient moulés sur des lignes rigides. Une royauté sans liberté, tel était son lot. La souveraine du trône obéissait à ses ministres. Le mental et l'essence, ses serviteurs, gouvernaient sa maison et défendaient avec une phalange de règles cuirassées le règne équilibré de la raison qui gardait l'ordre et la paix. Sa volonté restait cloîtrée dans les murs inexorables de la loi. Sa force était contrainte par des chaînes qui feignaient de l'ornaire. L'imagination était emprisonnée dans une forteresse, ainsi que ses favorites licencieuses et folâtres, l'aplomb de la réalité et la symétrie de la raison prenaient leur place sous la sentinelle des faits en ordre. À l'âme, il donnait pour trône un banc de tribunal. Pour royaume, un petit monde réglé et en rang. La sagesse des âges se recroquevillait en versets scolastiques. Raplati dans la mesure d'un cahier de classe. La puissante liberté de l'esprit n'était plus. Un mental scolaire avait capturé le large espace de la vie et choisi de vivre dans une chambre étriquée et nue, loin parquée dans ce dangereux univers trop vaste, craignant de perdre son âme dans l'infini. Même le spacieux coup d'œil de l'idée était découpé en systèmes enchaînés aux piliers fixes de la pensée ou vissés sur la base solide de la matière. Sinon l'âme se serait perdu dans ses hauteurs, obéissant à l'altière loi de l'idéal, La pensée aurait fait son trône dans un air insubstantiel, dédaignant les plates trivialités de la terre et barré les portes de la réalité pour vivre dans ses rêves. Alors, tout entrer au pas d'un univers réglé, l'empire de la vie était un continent organisé, ses pensées une armée en rang et disciplinée, en uniforme. Elle regardait fixement la logique à leur place, aux ordres du centurion mental diplômé, où chacun entrait dans une position comme une étoile et défilait par des cieux constellés et définitifs où gardait son rang féodal parmi ses pairs dans une hiérarchie cosmique d'un ciel immuable. Ou bien, telle une fille de haute naissance aux yeux chastes, interdite de marcher sans voile par les chemins publics, elle devait aller par des chambres étroitement isolées, vivre ses sentiments cloîtrés ou par les petites allées du jardinier. La vie était consignée à un surniveau à ras de terre. Elle n'osait pas tenter les grands sommets difficiles, ni grimper au voisinage d'une étoile solitaire, ni côtoyer le danger du précipice, ni tenter le rire périlleux des brisants, frangés d'écume, amateurs du danger, poètes de l'aventure, ni appeler quelques dieux flamboyant dans sa chambre, ni quitter les bornes du monde et là où nulle limite n'existe, rencontrer l'adorable avec la passion du cœur, ni enflammer le monde avec le feu intérieur. Dans la prose de la vie, tel un adjectif châtié, elle doit mettre de la couleur seulement dans son espace autorisé, sans faire de fugue hors de la cabine pensante, ni passer outre en des rythmes trop hauts ou trop vastes. Même quand elle s'envolait dans l'air idéal, le vol de la pensée ne se perdait pas dans le bleu des cieux. Elle traçait sur le ciel quelques fleurs typiques de beauté disciplinée et de lumière assortie. Un esprit tempéré et vigilant gouvernait la vie. Ses actes étaient les outils d'une pensée considérée trop froide pour prendre feu et mettre le monde en flammes, ou des manœuvres diplomatiques de la raison prudente, examinant les moyens d'une fin préfigurée, ou à son degré plus haut quelques plans d'une calme volonté, ou une stratégie de quelque haut commandement intérieur afin de conquérir les trésors secrets des dieux, ou de gagner quelque monde glorieux pour un roi masqué. Non, un réflexe du moi spontané, non, un signe de l'être et de ses états d'âme, pas un envol de l'esprit conscient, pas un sacrement de la communion de la vie avec le suprême, silencieux, ni son pur mouvement sur la route de l'éternel. Ou encore, pour donner corps à quelques hautes idées, une maison se bâtissait avec des briques trop bien ajustées, actions et pensées cimentées santé ensemble faisaient un mur pour de petits idéaux qui bornaient l'âme. Même les méditations rêvées sur un étroit siège et le culte s'adressait à un Dieu exclusif, prier l'universel dans une chapelle dont les portes étaient bouchées à l'univers, ou agenouillé devant l'impersonnel sans corps, le mental restait sourd aux cris et au feu de l'amour. Une religion rationnelle desséchait le cœur. Elle organisait les actes d'une vie sans heurts avec des lois morales, ou proposer un froid sacrifice sans flamme. Le livre saint restait son pupitre sanctifié, enveloppé dans les cordes soyeuses des gloses, un credo scellé à jamais son sens spirituel. Tel était le pays tranquille du mental établi. La vie là n'était plus l'essentiel, ni la voix de la passion. Le cri d'essence était englouti dans un silence. L'âme n'était pas là, ni l'esprit. Seul le mental, tout seul, le mental prétendait être l'esprit et l'âme. L'esprit se voyait lui-même comme une forme du mental, se perdait lui-même dans la gloire de la pensée. Une lumière rendait invisible le soleil. Sa vitrine est entrée dans un espace résolu et réglé, où tout était immobile et où chaque chose restait à sa place. Chacun avait trouvé ce qu'il cherchait et connaissait son but. Tout avait une ultime et finale stabilité. C'était un paradis pour la quiétude couronnée de la pensée. Il ne restait plus rien à trouver ni à connaître. Un tabernacle de la vie sage et satisfaite. Là, quelqu'un se tenait en avant, porteur de l'autorité. Un front imposant et une baguette à la main, le commandement s'incarnait dans des gestes et un ton. La sagesse pétrifiée de la tradition sculptait ses paroles. Ses jugements sentaient l'oracle. Voyageurs ou pèlerins du monde intérieur, tu es fortuné d'arriver dans un air brillant, flambant de la suprême finalité de la pensée ou aspirant au parfait chemin de la vie, ici trouve-le. Repose-toi de ta quête et vis en paix. Notre est le pays de la certitude cosmique. Ici est la vérité, l'harmonie de Dieu est ici. Enregistre ton nom dans le livre de l'élite. Admis par la consécration des élus, chacun choisit sa position dans la connaissance, ton poste dans le mental. Tire ton numéro d'ordre au bureau de la vie et admire ton destin qui t'a fait des nôtres. Tout ici est étiqueté et ficelé, le mental peut le connaître. Tout est combiné par la loi que Dieu permet pour la vie. Tel est le bout et il n'y a rien au-delà. Ici se trouve la sécurité de l'ultime enceinte. ici la clarté du glaive de lumière, ici la victoire de l'unique vérité, ici brûle le diamant du bonheur sans fissure. Vis comme un favori des cieux et de la nature. Mais ça se sache trop satisfait et convaincu, Savitri a répondu en jetant dans son monde la voix intérieure du cœur qui questionne et la profonde délivrance de l'œil qui voit. Car dans ce pays, le cœur ne parlait pas. Seule la claire lumière de l'intellect régnait ici, froide, précise, bornée. Heureux sont-ils dans ce chaos des choses? Et ce va-et-vient des pas du temps qui peuvent trouver l'unique vérité, la loi éternelle, imperturbable, ils vivent, intouchés, par l'espoir et le doute et la peur. Heureux sont-ils, dans ce monde ambigu et incertain, les hommes ancrés dans une croyance fixe ou ceux qui ont planté dans le riche terreau du cœur le petit grain de certitude spirituelle. Mille fois heureux qui restent sur la foi comme sur un roc. Mais il me faut passer outre et quitter cette recherche terminée. Cette vérité ferme et dénouée, arrondie et immuable, ce bâtiment géométrique des faits du monde, cette connaissance réglée des choses apparentes. Ici, je ne peux pas rester parce que je cherche mon âme. Personne n'a répondu dans ce brillant monde satisfait. Ou simplement, ils continuèrent leur chemin coutumier. Étonné d'entendre des questions dans cette ère ou des pensées qui pouvaient encore se tourner vers l'au-delà, mais quelques passants des sphères voisines murmuraient. Chacun jugeait la pensée de Savitri selon son propre credo. Qui donc est-elle, celle-là, qui ignore que l'âme est une moindre glande ou quelque sécrétion défectueuse qui trouble le saint gouvernement du mental et désorganise le fonctionnement du cerveau, ou une nostalgie logée dans la maison mortelle de la nature, ou un rêve chuchotant dans les cavernes de la pensée creuse de l'homme, qui aimait prolonger sa brève durée malheureuse et s'accrocher à une existence dans un océan de mort. Mais d'autres se récriaient que non, c'est son esprit qu'elle cherche. Une ombre splendide du Dieu, du nom de Dieu, une informe pendologue du royaume, de l'idéal, l'esprit est le saint fantôme du mental, mais nul n'a touché ses limites, ni vu sa face. Chaque âme est le fils crucifié du grand-père. Le mental est le seul parent de cette âme, sa cause consciente, la base sur laquelle tressaille une brève lumière passagère. Le mental unique créateur, du monde apparent. Tout ce qui vit ici fait partie de notre moi. Nos pensées ont fait le monde où nous vivons. Un autre passant aux yeux mystiques insatisfaits qui aimait sa croyance détruite et pleurait sa mort. Reste-t-il un seul être qui cherche un au-delà? Peut-on encore trouver le chemin et ouvrir la porte? Ainsi voyageait-elle à travers son moi silencieux. Elle est arrivée à une route débordante d'une foule ardente qui se précipitait brillante, les pieds en feu, les yeux ensoleillés, pressée d'atteindre le mystérieux mur du monde et d'arriver aux portes masquées du mental extérieur où nul lumière n'entre ni les voix mystiques, messagères de nos grandeurs subliminales, habitantes venues de la caverne de l'âme secrète. Elle faisait interruption dans une obscure somnolence spirituelle ou faisait surgir dans notre moi éveiller un lointain émerveillement. Les idées qui nous hantent par leur fil radieux, des rêves qui suggèrent une réalité pas encore née, d'étranges déesses aux yeux magiques comme des fontaines profondes, des dieux ardents cheveux au vent porteurs, des harpes de l'espoir, de grandes visions teintées de lune qui glissent par un air doré, les visages et les corps sculptés d'étoiles, d'une inspiration solaire qui rêve, des émotions qui rendent sublimes des cœurs ordinaires. Sa vitrice s'est mêlée à cette foule glorieuse, assoiffée de la lumière spirituelle que ces êtres portaient, impatiente de se hâter comme eux, pour sauver le monde de Dieu. Mais elle a réfréné la haute passion de son cœur. Elle savait que d'abord, elle devait découvrir son âme. Seuls ceux qui se sauvent eux-mêmes peuvent sauver les autres. Elle faisait face en sens contraire à l'énigmatique vérité de la vie. Ceux qui apportent la lumière à la souffrance des hommes couraient avec ardeur vers les mondes extérieurs. Elle, ses yeux étaient tournés vers la source éternelle, ouvrant les bras pour arrêter la foule. Sa vitrice était criée « Ô heureuse compagnie des dieux de lumière, révélez-vous qui savez la route que je dois prendre pour trouver le lieu de la naissance du feu occulte et la demeure profonde de mon âme secrète, car sûrement cette sphère de lumière et votre pays. » Quelqu'un répondit, montrant du doigt un vague silence voilé aux lointaines extrémités du sommeil, en quelques fonds reculés du monde intérieur. « Oh, Savitri, nous venons de ton âme cachée. Nous sommes les messagers, les dieux occultes, qui aide la vie grise et lourde des hommes ignorants à s'éveiller à la beauté et à la merveille des choses en les touchant de la splendeur et de la divinité. Dans le mal, nous allumons la flamme immortelle du bien et nous tenons la torche de la connaissance sur les routes ignorantes. Nous sommes ta volonté et la volonté de tous les hommes tendus vers la lumière. Ô copie humaine, ô déguisement de Dieu qui cherche la divinité que tu gardes cachée et qui vit par la vérité que tu ne connais pas. Suis jusqu'à sa source la grande route sinueuse du monde, là, dans le silence que rares ont jamais atteint. Tu verras le feu qui brûle sur la pierre nue et la caverne profonde de ton âme secrète. Alors, suivant l'antique route sinueuse, Savitri est arrivé là où tout se resserrait dans un étroit sentier, foulé seulement par de rares pèlerins aux pieds blessés, quelques formes brillantes émergées des profondeurs inconnues, et la regarder avec de calmes yeux immortels. Pas un son ne venait rompre l'immobile contemplation, la silencieuse proximité de l'âme se sentait. Fin du chant 3. L'entrée dans les pays intérieurs. Savitri, chant 7, livre 3. Chant 3, pardon. Sri Aurobindo, traduction en français de Satprem. Jamais tant de secrets n'ont été dits avec tant de beauté. C'est ça l'épopée de la victoire sur la mort. C'est ça la victoire sur la mort de Sri Aurobindo et de Mère. Je remercie infiniment Sri Aurobindo et Douce Mère. Ganga Lakshmi.